Chapitre 34. Vous vous sentez bien, monsieur ? Je me rendis compte que j'étais plié en deux dans mon fauteuil, les coudes collés aux genoux, les doigts crispés dans les cheveux, les mains serrées contre les tempes. Je me redressai face à l'archiviste. « Vous avez crié, monsieur, » me dit-il. « J'ai pensé que vous aviez peut-être eu un malaise. » « Non, » répondis-je, déglutissant à vide pour pouvoir continuer. « Tout va bien. Ce n'est qu'une petite migraine sans gravité. » Je baissai les yeux, toujours aussi désorienté. Chaque articulation de mon corps était douloureuse. Mon Persoc ne devait pas fonctionner, car il indiquait que 8 heures avaient passé depuis mon arrivée à la bibliothèque. Je demandai à l'archiviste « Quelle heure est-il en temps du Retz ?» Il me renseigna. 8 heures s'étaient bien écoulées. Je me frottai de nouveau les yeux. Mes doigts devinrent moites de sueur. « L'heure de la fermeture a dû passer depuis longtemps, » lui dis-je. « Je suis désolé de vous avoir retenu. »
« Ce n'est rien. C'est un plaisir pour moi que d'accueillir les chercheurs à n'importe quelle heure. Particulièrement aujourd'hui, »
ajouta-t-il en nouant les mains devant son menton.
« Avec tous ces troubles, il vaut peut-être mieux ne pas trop se trouver dans les rues. »
« Tous ces troubles, oui. » L'espace d'un instant, la confusion totale avait régné dans mon esprit. Je ne me souvenais de rien d'autre que du rêve-cauchemar de Brown Lamia, de l'IA appelée Humon et de la mort de ma personnalité homologue Kitsienne. « Oui, la guerre, » repris-je. « Quelles sont les nouvelles ?» L'archiviste secoua la tête.
« Tout va se disloquer, le centre ne tient plus. Le monde est envahi par la simple anarchie. Le flux sombre de sang qui déferle partout noie la cérémonie où naissait l'innocence. » Les meilleurs manquent de foi tandis que les pires sont animés d'une passion intense.
Je lui souris. Et vous croyez aussi, lui dis-je, qu'une bête brutale, à l'heure où le destin l'appelle, avance lourdement pour naître à Bethléem? Il me répondit sans sourire.
Oui, monsieur, je le crois.
Je me levai et passai entre les vitrines sous vide sans regarder les parchemins couverts de mon écriture vieille de 900 ans. « Vous avez peut-être raison, » lui dis-je. « Peut-être bien. » Il était tard. Le parking était vide, à l'exception de l'épave de mon week-end volé et d'un unique VEM à la carrosserie richement ouvragée, visiblement due au talent d'un artiste local du vecteur Renaissance.
« Puis-je vous déposer quelque part, monsieur ? »
Je humais l'air frais de la nuit, chargé de l'odeur de poisson et de mazout des canaux.
« Non, merci, » répondis-je. « Je vais prendre le distance. »
L'archiviste secoua la tête.
« Vous aurez sans doute du mal, monsieur. Tous les terminex publics sont sous le coup de la loi martiale. Il y a eu des émeutes. »
Visiblement, le petit archiviste répugnait à employer ce dernier terme. Pour lui, la continuité et l'ordre devaient passer avant tout le reste.
« Venez donc, » insista-t-il. « Je vous déposerai devant un distrance privé. »
Je le considérais en plissant les yeux. À une autre époque et sur l'ancienne terre, il aurait été moine en chef dans un monastère dédié à la conservation d'une poignée de reliques d'un passé ancien. Jetant un coup d'œil au vieil immeuble derrière nous, je me dis que c'était précisément ce qu'il faisait en ce moment. « Comment vous appelez-vous » demandai-je sans me soucier de savoir si l'autre cybride connaissait ou pas son nom.
« Oudrat Bétinard, » me répondit-il.
Il regarda quelques instants en clignant des yeux, ma main tendue, puis la serra avec fermeté.
« Je suis Joseph Severne. »
Je ne pouvais tout de même pas lui expliquer que j'étais la réincarnation technologique de l'homme dont nous venions de quitter la crypte littéraire. Ashtinar hésita une infime fraction de seconde avant de hocher la tête, mais je savais que pour un lettré comme lui, le nom du peintre qui se trouvait au chevet de Keats lorsque le poète était mort ne pouvait être dénué d'écho. «
Et Hyperion ?» demandai-je. « Hyperion ? Ah, le protectorat où la flotte s'est concentrée il y a quelques jours. J'ai cru comprendre qu'ils avaient du mal à faire entrer les vaisseaux de guerre dont ils avaient besoin. Les combats ont été très violents. Je veux dire, là-bas, dans le système d'Hyperion. C'est curieux, mais je songeais justement à Kitz et à son œuvre maîtresse inachevée. Étrange, toutes ces petites coïncidences qui s'accumulent, vous ne trouvez pas?
L'invasion a eu lieu? L'invasion d'Hyperion? Ashtinar s'était arrêté devant son VEM. Il posa la main sur la serrure palmaire de la portière côté pilote. Les portes se soulevèrent et se replièrent à l'intérieur en accordéon. Je baissai la tête pour entrer dans l'habitacle, imprégné d'odeurs de cuir et de bois de santal. La même odeur qu'aux archives, la même que Tinar lui-même.
« Je ne sais pas vraiment s'il y a eu une invasion »,
me dit-il en refermant les portières. Sous l'odeur de santal et de cuir, l'habitacle exhalait cette odeur de polymère, d'ozone, d'énergie et de lubrifiant propre à tout véhicule neuf et qui a séduit l'humanité depuis près d'un millénaire.
Il n'est pas facile de se connecter au réseau d'information en ce moment, me dit-il. Jamais l'infosphère n'a été aussi encombrée. Cet après-midi, il m'a fallu littéralement attendre pour avoir un renseignement sur Robinson Jeffers. Rendez-vous compte.
Nous survolâmes un instant le canal, puis une place publique du genre de celle où j'avais failli me faire lyncher un peu plus tôt. Nous passâmes à 300 mètres au-dessus des toits, admirant la cité nocturne avec ses vieux immeubles aux contours balisés de bandes lumineuses à l'ancienne mode. Il y avait plus de lampadaires publics que de holos publicitaires, et la foule était plus dense dans les rues secondaires que dans les grandes artères, principalement occupées, ainsi que les alentours des Terminex, par des militaires des FT de Renaissance qui patrouillaient également avec leur VEM au-dessus de la ville. À deux reprises, Tinar dut décliner son identité, la première fois pour répondre au contrôle local de la circulation, et la deuxième fois pour satisfaire à une interrogation péremptoire de la force. « Les archives n'ont pas de terminal distance ?» demandai-je en regardant au loin ce qui ressemblait à des incendies.
« Non, l'utilité ne s'en est jamais fait sentir. Nous avons peu de visiteurs en général. » Les chercheurs qui viennent travailler chez nous ne détestent pas marcher depuis le Terminex.
Où se trouve celui que vous me conseillez d'utiliser?
Nous y sommes,
répliqua l'archiviste. Quittant le couloir de circulation, il contourna un bâtiment bas qui ne devait pas faire plus d'une trentaine d'étages pour se poser sur une plateforme en saillie datant de la plus belle période d'écho de Glennon Heights, du temps où on les faisait encore en béton et en plastacier.
« Mon ordre réside dans cet immeuble, » me dit-il. « J'appartiens à une branche oubliée du christianisme appelée catholicisme. Mais vous êtes un lettré, H. Severne, » ajouta-t-il d'un air gêné. « Vous avez dû entendre parler de notre église dans l'ancien temps. »
Elle m'est familière, en effet, et pas seulement par les livres, répliquai-je. « Vous dites qu'il y a un ordre qui réside ici.
Non, nous ne sommes pas nombreux. » H. Severne,
fit-il en souriant.
Nous sommes 8 à appartenir à l'ordre laïque des frères de l'histoire et de la littérature. 5 d'entre nous travaillent à l'université de Reichs, 2 sont des historiens d'art qui s'occupent de la restauration de l'abbaye de Lutzschendorf, et je suis chargé des archives littéraires. L'Église nous autorise à résider ici pour économiser les frais quotidiens de transport sur Passem.
Nous entrâmes dans le rucher. Même selon les critères du vieux Retz, c'était un immeuble d'âge vénérable, avec un éclairage modernisé dans des corridors de pierre véritables et des portes à gonds. Aucune demande d'identification, aucun message de bienvenue ne nous accueillit à l'entrée. Saisi d'une impulsion soudaine, je déclarai « J'aimerais bien me distransporter sur Passem. » L'archiviste parut surpris.
« Ce soir même ? En ce moment ?»«
Et pourquoi pas ?» Il secoua la tête. Je compris que pour cet homme, le prix d'une centaine de marques représentées par le transport d'Istrance devait être l'équivalent de plusieurs semaines de salaire.
« Notre immeuble a son propre terminal, » me dit-il. « Suivez-moi. »
L'escalier était fait de pierres usées et de fer forgé oxydé. La cage centrale représentait un puits de 60 mètres de dénivellation. Les gémissements d'un jeune enfant montèrent d'un corridor obscur situé dans les étages inférieurs, suivis des cris d'un homme et des sanglots rauques d'une femme. « Depuis combien de temps habitez-vous ici, Ashtinar ?»«
17 ans en temps local. 32 années standard, à peu près. » « Voilà, nous y sommes. »
Le terminal était aussi ancien que l'immeuble. Son cadre de translation, entouré de dorures formant un bas-relief, était devenu d'un gris verdâtre.
« Le RETS a imposé des restrictions concernant tous les déplacements, me dit l'archiviste, mais vous devriez pouvoir gagner Passem. L'invasion des barbares, ou je ne sais comment on les appelle, n'est prévue que dans 200 heures, je crois. » Deux fois le temps dont dispose le vecteur Renaissance.
Il avança la main pour me saisir le poignet. Je sentis la tension qu'il habitait sous la forme d'une légère vibration au niveau des tendons et de l'os.
H. Severn, vous croyez que ces gens vont brûler mes archives? Sont-ils capables, même eux, de détruire d'un seul coup 10 000 ans de pensée humaine?
Il laissa retomber sa main. Je n'étais pas sûr de savoir exactement de qui il parlait. Faisait-il allusion aux extros, aux terroristes de l'église Grichtek, aux émeutiers? Gladstone et les autorités de l'hégémonie étaient prêts à sacrifier tous les mondes de la première vague. « Non, » répondis-je en lui tendant la main pour lui dire au revoir. « Je ne pense pas qu'ils détruiront vos archives. » H. Oudrad Bettinar fit un pas en arrière en souriant, gêné d'étaler ainsi son émotion.
Bonne chance, H. Severn, quel que soit l'endroit où vos voyages vous conduiront,
me dit-il en me serrant la main. Que Dieu vous bénisse, Ashtinar. C'était la première fois que j'utilisais une expression de ce genre, et je fus choqué de l'entendre sortir de ma propre bouche. Je sortis la carte prioritaire de Gladstone, puis entrai le code de Passem. Le terminal déclara qu'il était navré, mais que l'opération n'était pas possible pour le moment. Il me fallut insister pour que ces processeurs microcéphales finissent par accepter de reconnaître qu'il s'agissait d'une carte prioritaire et que la machine s'allume. Je fis un signe de tête à Tinar et franchis le portail avec le sentiment de commettre une lourde erreur en ne rentrant pas directement sur TC carré. Il faisait nuit sur Passem, et l'obscurité n'était pas tempérée, comme sur le vecteur Renaissance, par un halo urbain. Il tombait des trombes, d'une violence qui donnait envie d'être bien au chaud sous les couvertures et de ne plus sortir de chez soi jusqu'au lendemain. La porte d'Istrance était sous un haut vent, mais je me sentis aussitôt exposé à la nuit, à la pluie et au froid. Particulièrement au froid. L'air de Passem avait la moitié de la densité standard du RETS et son seul plateau habitable faisait deux fois l'altitude des villes de Renaissance 5. J'aurais volontiers rebroussé chemin plutôt que de m'enfoncer dans la nuit pour me retrouver trempé jusqu'aux os. Mais un marine de la force sortit de l'ombre, le fusil d'assaut polyvalent en bandoulière mais prêt à pivoter, pour s'enquérir de mon identité. Je le laissai examiner ma carte dans son persoc. Il se mit aussitôt au garde-à-vous.
« À votre service, monsieur. »«
Est-ce que nous sommes bien au Nouveau Vatican ?»«
Oui, monsieur. »
J'aperçus, à travers les rideaux de pluie, le dôme illuminé d'un bâtiment.
« C'est bien Saint-Pierre qu'on aperçoit là-bas. »«
Oui, monsieur. »
« Pensez-vous que Monseigneur Édouard s'y trouve en ce moment ?»«
Traversez cette cour et prenez à droite sur la place. Vous le trouverez dans le bâtiment bas à gauche de la cathédrale, monsieur. »
« Merci, caporal.
Je ne suis que deuxième classe, monsieur. »
Je drapais ma courte cape autour de mes épaules et sur ma tête. Elle ne m'offrait qu'une protection dérisoire contre cette pluie. Puis je traversai la cour au pas de course. Un humain, peut-être un prêtre, bien qu'il ne fût ni en soutane ni en col romain, vint m'ouvrir la porte de la résidence. Un autre humain, assis derrière un bureau de bois, m'apprit que Monseigneur Édouard se trouvait bien dans ses appartements et qu'il n'était pas encore couché malgré l'heure tardive. Avais-je un rendez-vous? Non, je n'en avais pas, mais je souhaitais le rencontrer pour lui parler d'une affaire importante.
À quel sujet, voulut savoir poliment mais fermement l'homme assis derrière le bureau. Il n'avait pas semblé impressionné par ma carte officielle. Je supposais qu'il avait au moins le rang d'évêque. Au sujet du père Duret et du père Lénard Hoyt, lui expliquai-je. Il hocha la tête, chuchota quelques mots dans un micro si petit que je ne l'avais pas remarqué sur son col, puis me conduisit dans la partie résidentielle. Comparé à cet endroit, le vieil immeuble où vivait Achtinard ressemblait à un palais de sybarite. Le corridor était absolument nu. Ses murs de plâtre et ses portes de bois brut n'avaient pas le moindre ornement. L'une des portes était ouverte. En passant, je vis l'intérieur de la chambre, qui ressemblait à une cellule de prison avec son lit bas, sa couverture rugueuse, son tabouret de prière et sa commode en bois blanc où étaient posées une cuvette et un broc plein d'eau. Il n'y avait ni fenêtre, ni paravent, ni fosse holo, ni console de données. La pièce ne devait même pas être interactive. Des voix montaient de quelque part, entonnant une sorte de cantique d'un raffinement si atavique que les poils se dressaient sur ma nuque. Un chant grégorien. Nous passâmes dans un réfectoire aussi dépouillé que les cellules individuelles, puis dans une cuisine qui aurait pu sembler familière à des gens de l'époque de Keats. Nous descendîmes un escalier aux marches de pierre polie par l'usage, puis un corridor mal éclairé nous conduisit au pied d'un deuxième escalier plus étroit. Mon guide me laissa là et je grimpai les marches pour déboucher dans l'un des plus beaux lieux où j'ai jamais mis les pieds. Une partie de moi savait que l'Église avait fait déplacer et reconstituer la basilique de Saint-Pierre dans ses moindres détails et jusqu'au reste présumé de Saint-Pierre lui-même reposant derrière l'autel. Mais une autre partie se sentait réellement transportée dans la Rome que j'avais contemplée pour la première fois à la mi-novembre 1820, celle que j'avais visitée et où j'avais séjourné, souffert et rendu mon dernier soupir. Ce lieu était plus beau et plus raffiné que n'importe quel spire moderne de Tossetti avec ses luxueux bureaux et ses sommets vertigineux. La basilique de Saint-Pierre faisait 600 pieds de long sur 400 de large à l'endroit où la croix du transept faisait intersection avec la nef. La coupole parfaite de Michel-Ange la couronnait, culminant à près de 400 pieds au-dessus de l'autel. Le baldaquin de bronze de Bernin, avec son dais ouvragé soutenu par des colonnes byzantines torsadées, surmontait l'autel principal, donnant à cet espace immense la dimension humaine nécessaire à la perspective dans les cérémonies intimes qui s'y déroulaient. La lumière douce des lampes et des cierges, qui illuminaient certaines parties de la basilique et faisaient briller les dalles de traversin, mettait en valeur les mosaïques dorées et les détails infimes peints ou gravés sur les murs, les colonnes, les corniches et le grand dôme lui-même. Tout en haut, les éclairs incessants, transperçant de leur lourde lumière les vitraux jaunes, dirigeaient de violents faisceaux de clarté oblique vers le trône de Saint-Pierre de Bernin. Je m'arrêtai un peu plus loin que l'abside, ne voulant pas commettre un sacrilège en m'avançant plus avant dans cet espace sacré où j'avais l'impression que mes pas résonnaient de manière trop indiscrète et que mon haleine même se réverbérait sur toute la longueur de la basilique. Au bout d'un moment, mes yeux s'étant accoutumés à la pénombre et au contraste produit par les éclairs et les cierges qui brûlaient autour de moi, je m'aperçus qu'il n'y avait pas le moindre banc pour occuper l'abside et la longue nef, ni la moindre colonne sous la coupole. Il n'y avait que deux fauteuils à proximité de l'autel, à une cinquantaine de pieds de l'endroit où je me tenais. Deux hommes occupaient ces fauteuils, et ils étaient penchés en avant, visiblement en train d'échanger des propos importants. Les lampes, les cierges et la lueur émanant de la grande mosaïque du Christ qui décorait le devant de l'autel noir illuminaient des fragments des visages des deux hommes. Tous deux étaient âgés et portaient des costumes sacerdotaux. Leur col blanc brillait dans l'ombre. Avec un léger sursaut, je reconnus Monseigneur Édouard, puis celui qui lui faisait face. C'était le père Paul Duret. Ils durent se demander ce qui se passait au début, lorsqu'ils interrompirent leur conversation à voix basse pour voir surgir de l'ombre cette apparition,
Ce petit homme qui n'était lui-même qu'une ombre, qui criait leur nom, surtout celui de Duret, comme s'il venait de voir un revenant, et qui laissa échapper un flot incohérent de paroles où il était question de pèlerins et de pèlerinages, de Gritsch et de tombeaux du temps, d'IA et de la mort des dieux. Monseigneur Édouard n'alerta pourtant pas la sécurité. Ni Duret ni lui ne se levèrent pour s'enfuir. Ils s'efforcèrent au contraire de calmer l'apparition, de donner un sens à ces paroles incohérentes et de transformer cette étrange confrontation en une conversation sensée. Il s'agissait bien de Paul Duret. Ce n'était pas quelque mystérieux double, ni une copie androïde, ni une reconstitution cybride. Je pus m'en assurer en l'écoutant, en lui posant des questions et en le regardant dans les yeux, mais surtout en lui serrant la main, en le touchant. La chose ne pouvait faire aucun doute, c'était Paul Duret.
Vous connaissez d'incroyables détails de ma vie, de mon séjour sur Hyperion au tombeau du temps. Mais vous, qui m'avez-vous dit être ? Me demanda Duret.
C'était mon tour d'essayer de le convaincre. Une reconstitution cybride du poète John Keats, lui dis-je. Un jumeau de la personnalité que Brown Lamia portait en elle lors de votre pèlerinage.
Et vous avez pu communiquer, apprendre tout ce qui nous arrivait, grâce à cette personnalité partagée?
J'avais posé un genou à terre entre l'autel et eux. Je levai les deux mains en signe de frustration.
Grâce à cela, si vous voulez, grâce à je ne sais quelle anomalie de la mégasphère. Disons que j'ai rêvé tout ce qui vous arrivait. J'ai entendu les récits des pèlerins. J'ai entendu le père Hoyt raconter la vie et la mort de Paul Duret, c'est-à-dire votre vie et votre mort.
J'avançai la main pour lui toucher le bras à travers ses vêtements de prêtre. Le fait de me trouver dans le même lieu et la même tranche de temps que l'un des pèlerins me donnait littéralement le vertige.
« Vous savez donc comment je suis arrivé jusqu'ici ?»
me dit le père Duret.
« Non. »
Dans le dernier rêve où je vous ai vu, vous entriez dans l'un des trois caveaux et il y avait une lumière qui brillait.
Je n'en sais pas plus.
Duret hocha la tête. Ses traits étaient plus nobles et plus las que dans mes rêves.
Mais vous êtes au courant du sort des autres ? Me demanda-t-il.
Je pris une longue inspiration avant de répondre. Pour certains, oui, je suis au courant. Le poète Silénus est vivant, mais empalé sur l'arbre aux épines du Gritsch. La dernière fois que j'ai vu Kassad, il s'attaquait les mains nues au monstre. H. Lamia a voyagé dans la mégasphère jusqu'à la périphérie du technocentre en compagnie de mon homologue Kitsien.
Il a survécu dans cette boucle de Schron, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle.
Duret semblait fasciné. « Il ne vit plus, » répondis-je. « La personnalité IA nommée Humon l'a tué. Sa personnalité est détruite. Brown essaie de revenir. J'ignore si son corps est encore vivant. »
Monseigneur Édouard se pencha vers moi.
« Et le consul ? Et le père avec son enfant ?»
Le consul a essayé de regagner la capitale sur un tapis Hawking. Il s'est écrasé à quelques miles au nord. J'ignore ce qu'il est devenu.
« Miles »,
répéta Duret comme si ce mot évoquait pour lui des souvenirs.
« Pardonnez-moi, » lui dis-je en désignant la basilique. « Cet endroit m'incite à penser dans les mêmes unités de mesure que dans ma vie antérieure. »«
Poursuivez, »
m'encouragea Monseigneur Édouard.
« Parlez-nous du père et de l'enfant. »
Je m'assis sur la pierre froide, épuisé, les bras et les mains tremblants de fatigue. Dans mon dernier rêve, Sol venait d'offrir Rachel au Gritsch. C'était elle qui l'avait demandé. Je n'ai pas pu voir ce qui se passait ensuite. Les tombeaux étaient en train de s'ouvrir.
« Tous ?» demanda Duret.
« Tout ce que j'ai pu voir. »
Les deux hommes s'entre-regardèrent.
« Ce n'est pas tout, » ajoutai-je.
Je leur racontai l'entretien avec Humon.
Qu'une entité divine puisse être ainsi issue de la conscience humaine sans que l'humanité en soit au courant ?
Demandai-je pour conclure. Les éclairs avaient cessé, mais la pluie tombait maintenant avec tant de violence que je l'entendais crépiter en haut du dôme. Quelque part dans l'obscurité,
Une lourde porte grinça, des pas résonnèrent puis s'éloignèrent. Des cierges votifs dans les profondeurs enténébrées de la basilique projetaient des éclats de lumière rougeâtre sur les murs et les draperies.
« J'ai jadis enseigné que, d'après Saint-Héliard, la chose était possible, »
déclara Duret d'une voix lasse.
« Mais si ce Dieu est un être limité, qui évolue de la même manière que nous, créatures imparfaites, alors non, ce n'est pas le Dieu d'Abraham et du Christ. »
Monsignor Édouard hocha la tête.
« Il y a une ancienne hérésie. »
« Oui, je sais, l'hérésie socinienne. J'ai entendu les explications que le père Duret donnait à Sol Weintraub et au consul. Mais quelle différence cela fait-il que cette « entité » ait évolué d'une manière ou d'une autre et qu'elle soit limitée ou non ? Si Humon dit la vérité, nous avons affaire à une force capable d'utiliser des quasars comme source d'énergie. Il s'agit bien d'un dieu qui a le pouvoir de détruire des galaxies entières.
Un dieu destructeur de galaxies, si vous voulez. Mais ce n'est pas Dieu,
répliqua Duret. Je saisissais très bien la distinction. Mais supposons que cette entité ne soit pas limitée, objectai-je. Supposons qu'il s'agisse du Dieu du point oméga et de la conscience totale que vous mentionnez dans vos écrits. Supposons qu'il s'agisse de la même trinité que celle dont parle votre Église depuis bien avant saint Thomas d'Aquin. Supposons qu'une partie de cette trinité ait pris la fuite dans le temps pour se réfugier ici, maintenant. Que va-t-il se passer ?
Pourquoi aurait-elle pris la fuite ?
Demanda Duret d'une voix douce. Le dieu de Téliard, celui de l'Église, le nôtre, ne pourrait être que le dieu du point Oméga, dans lequel le Christ de l'évolution, le personnel et l'universel, ce que Téliard appelle l'en haut et l'en avant, sont étroitement réunis. Aucune menace ne saurait exister qui puisse mettre en fuite un élément quelconque de cette entité divine. Aucun antéchrist, aucun pouvoir satanique, aucun anti-dieu ne peut s'opposer à une telle conscience universelle. Que pourrait être alors cet autre dieu ?
Le dieu des machines ?
Suggérais-je d'une voix si faible que je n'étais même pas sûr d'avoir parlé tout haut. Monsignor Édouard joignit les mains comme pour prier, mais son geste ne dénotait qu'une intense réflexion et une agitation encore plus grande.
« Le Christ peut avoir des doutes, »
murmura-t-il.
« Sa sueur s'est changée en sang dans le jardin, et il a demandé qu'on lui prenne sa coupe. S'il y avait un second sacrifice en préparation, quelque chose d'encore plus terrible que la crucifixion, je pourrais à la rigueur concevoir que la partie Christ de la Trinité se réfugie dans le temps à travers je ne sais quel jardin quadridimensionnel de Gethsemane pour y gagner quelques heures ou quelques années de réflexion.
Quelque chose de plus terrible que la crucifixion,
répéta Duret d'une voix qui n'était plus qu'un souffle rauque. Nous nous tournâmes vers celui qui s'était volontairement crucifié sur un arbre de Tesla plutôt que de se soumettre à son parasite cruciforme. Mais la créature avait impitoyablement continué de le ressusciter, en lui infligeant d'innombrables fois les affres de la crucifixion et de l'électrocution.
Quelle que soit la chose que cette conscience d'en haut cherche à fuir, elle doit être véritablement épouvantable,
murmura Duret. Monsignor Édouard posa la main sur l'épaule de son ami.
« Paul, tu devrais raconter à ce monsieur comment tu es revenu ici. »
Duret sembla émerger de l'endroit lointain où ses souvenirs l'avaient conduit pour se concentrer finalement sur moi.
« Vous êtes au courant de tous les détails. Vous savez ce qui s'est passé dans la vallée des tombeaux du temps. »
En gros, jusqu'au moment où vous avez disparu. Il poussa un soupir et se toucha le front de ses longs doigts tremblants.
« Dans ce cas, me dit-il, vous saurez peut-être donner un sens à la manière dont je me suis retrouvé ici et à ce que j'ai pu voir en chemin. Lorsque j'ai aperçu cette lumière dans le troisième caveau, raconta le père Duret, je suis entré sans hésiter.
J'avoue que j'avais des idées de suicide à l'esprit, ou du moins dans ce qui reste de mon esprit après la brutale réplication. Je refuse à ce parasite l'honneur d'employer à son propos le terme de résurrection. Causé par le cruciforme. Je pensais que la lumière venait du Gritch. J'avais le sentiment que ma seconde rencontre avec cette créature, la première ayant eu lieu des années auparavant dans le labyrinthe situé dans les profondeurs de la faille, lorsque le Gritch m'avait oint de son maudit cruciforme, n'avait que trop tardé. Lorsque nous avions cherché partout la veille le colonel Cassade, ce troisième caveau nous avait paru particulièrement réduit et nu, profond d'une trentaine de pas à peine et terminé par une paroi rocheuse. Cette paroi avait maintenant disparu. À sa place s'ouvrait ce qui ressemblait à la bouche du Gritch, et qui était d'une structure à la fois minérale et organique, avec des stalactites et des stalagmites ressemblant à des dents pointues en carbonate de calcium. De l'autre côté de cette bouche descendait un escalier de pierre. La lueur venait de ses profondeurs. Elle était tantôt pâle, tantôt grenat. On n'entendait aucun bruit, à l'exception du susurrement du vent, comme si la roche respirait. Je ne suis pas Dante, et je n'étais à la recherche d'aucune Béatrice. Mes velléités de courage, bien que fatalisme soit un terme plus adéquat en l'occurrence, étaient parties en fumée en même temps que la lumière du jour. Je fis volte-face et courus, presque, retrouver l'entrée du caveau. Mais il n'y avait plus d'entrée. Le passage était bouché. Non seulement je n'avais entendu aucun bruit d'éboulement ou d'avalanche, mais l'endroit où l'ouverture aurait dû se trouver était fait de roches à l'aspect aussi ancien et aussi immuable que tout le reste du caveau. Une demi-heure durant, je cherchais une autre issue, mais n'en découvris aucune. Je refusais de retourner jusqu'à l'escalier. Je restais assis des heures à l'endroit où la sortie du caveau aurait dû se trouver. Encore un mauvais tour du Gritch. Encore une mise en scène oiseuse de cette planète perverse. Hyperion avait le sens de l'humour. Ha ha ha! Au bout de plusieurs heures d'attente dans la semi-obscurité, à contempler la lumière qui pulsait sans bruit à l'autre extrémité du caveau, je compris que le Gritch ne viendrait jamais ici et que l'entrée ne se reformerait pas par magie. Ma seule alternative était de rester ici jusqu'à ce que je meure de faim, ou plus probablement de soif car j'étais déjà déshydraté, ou bien de descendre ce maudit escalier. Je le descendis. Plusieurs années auparavant, et même plusieurs vies, littéralement, lorsque j'avais rencontré les Bicuras non loin de la faille, sur le plateau du Pignon, le labyrinthe où j'avais vu le Gritch pour la première fois se trouvait à 3000 mètres de la surface, ce qui était relativement peu profond. La plupart des galeries de ce genre sur les planètes labyrinthiennes sont au moins à 10 000 mètres sous la croûte. Il ne faisait pour moi aucun doute que cet escalier sans fin, dont les marches en spirale étaient assez larges pour laisser passer de front une dizaine de prêtres, me conduirait jusqu'au labyrinthe où le Gritch m'avait fait le don maudit de l'immortalité. Si cette créature ou la puissance qui la dirigeait avait tant soit peu le sens de l'ironie, on pouvait penser que mon immortalité et ma vie même de mortel me seraient retirées ici. La lumière, légèrement rosée, devenait de plus en plus forte à mesure que je descendais. Au bout de 10 minutes, elle était d'un rouge soutenu. Une demi-heure plus tard, elle scintillait d'un éclat écarlate un peu trop dantesque à mon goût. Cette mise en scène primaire de pacotille me fit presque rire tout haut. J'imaginais un petit diable surgissant, soudain, la queue frétillante et le trident levé, le pied fourchu, la fine moustache frémissante. Mais je ne riais pas du tout lorsque j'atteignis des profondeurs où la source de cette lumière me devint évidente.
C'étaient des cruciformes, par centaines, par milliers, du plus petit collé à la paroi rugueuse de la cage d'escalier comme une croix grossière abandonnée par quelque conquistador souterrain, jusqu'au plus gros qui étalait leur masse rose, bioluminescente, de la couleur du corail ou de la chair saignante. Ce spectacle me rendait malade. J'avais l'impression d'être enfermé dans une cage en compagnie de sangsues bouffies, grouillantes et frémissantes. Mais c'était encore pire. J'ai vu ce que donnaient les images soniques et transversales d'une seule de ces choses sur moi, avec son foisonnement de tissus ganglionnaires infiltrés dans ma chair et dans mes organes, comme des fibres grises, des faisceaux de filaments vibrants, des grappes de nématodes ressemblant à d'horribles tumeurs qui n'accordent même pas à leur hôte la grâce de la mort. Je portais déjà deux de ces cruciformes, celui de Lennart Hoyt et le mien. Je priais pour mourir plutôt que d'en subir un troisième. Je continuais de descendre. Les murs pulsaient de chaleur et de lumière, irradiés peut-être par les milliers de cruciformes collés aux parois. Finalement, j'atteignis la dernière marche. L'escalier finissait ici. Je pris la dernière courbe et je compris que j'y étais. Le labyrinthe. Il s'étendait devant moi tel que je l'avais vu d'innombrables fois en holo et une fois en réalité. Ses parois étaient lisses, espacées d'une trentaine de mètres, taillées dans l'écorce d'Hyperion plus de 750 000 ans auparavant, coupant et recoupant la planète telles des catacombes conçues par un ingénieur fou. On trouve ces labyrinthes sur 9 mondes, 5 d'entre eux appartenant aux Rets et les autres, comme celui-ci, aux confins. Ils sont tous identiques, creusés à la même époque, mystérieux quant aux raisons de leur existence. Les légendes abondent sur les constructeurs des labyrinthes, mais ces bâtisseurs mythiques n'ont pas laissé derrière eux la moindre trace, le moindre objet permettant d'identifier leur provenance. Aucune théorie sur les labyrinthes ne fournit d'explication plausible sur ce qui fut probablement la plus énorme entreprise de la galaxie. Ces labyrinthes sont toujours vides. Des engins téléguidés ont exploré des millions de kilomètres de galeries. Sauf aux endroits où des éboulements naturels se sont produits au fil des siècles, les souterrains sont toujours vides et leurs parois toujours nues. Mais celui où je me tenais était différent. Les cruciformes éclairaient une scène digne de Jérôme Bosch. Le corridor que j'avais sous les yeux était sans fin, mais il n'était pas vide. Oui, il était loin d'être vide. Au début, je crus qu'il s'agissait d'une foule vivante, d'un fleuve de têtes et d'épaules et de bras qui s'étendait sur des kilomètres à perte de vue. Ce flot d'humanité était interrompu, çà et là, par la présence de véhicules immobiles, de la même couleur rouille. Mais lorsque je m'avançais à moins de 20 mètres pour mieux voir ces gens, je m'aperçus qu'il s'agissait de cadavres, de dizaines, de centaines de milliers de cadavres qui occupaient toute la galerie, aussi loin que portait mon regard, couchés sur la pierre, adossés aux parois, ou simplement maintenus dans leur position par le contact d'autres corps entassés dans la galerie. Il y avait cependant un passage, une trouée qui semblait avoir été pratiquée par une machine équipée de lames tranchantes. Je suivis cette trouée en prenant bien soin de ne toucher aucun corps, aucun membre protubérant ou sectionné. Il s'agissait d'humains, avec des vêtements dans la plupart des cas, momifiés par des siècles de lente décomposition dans cette atmosphère dépourvue de bactéries. La chair et la peau étaient tannées, tendues, fendues comme une peau de fromage trop sec. La peau ne recouvrait plus que les os, et même moins dans certains cas. Les cheveux ne subsistaient que sous la forme de fibres rêches, noircies, raides comme du fibroplaste verni. Les paupières ouvertes ne laissaient voir qu'un noir béant, de même que les espaces entre les dents. Les vêtements, autrefois multicolores, était d'un gris brun uniforme, cassant comme de la pierre fine. Les petites masses de plastique fondues par le temps, au cou ou au poignet, avaient dû être des persocs ou leurs équivalents. Les véhicules qui auraient pu être d'anciens VEM n'étaient que des carcasses de rouille. J'avais parcouru une centaine de mètres lorsque je fis soudain un faux pas. Plutôt que de tomber sur les corps qui bordaient le passage à peu près large d'un mètre, je voulus me retenir à l'une de ces machines tout en courbe et hublot devenues opaques. Elle s'écroula sur elle-même en poussière de rouille. Je poursuivis mon chemin, sans l'aide d'aucun vigile, suivant la terrible trouée pratiquée dans cette masse de chair humaine pourrissante, en me demandant pour quelle raison on me montrait cela et quelle signification il fallait lui donner. Au bout d'un certain temps que je suis incapable d'évaluer, j'arrivai à une intersection de galeries. Les trois tunnels qui s'ouvraient devant moi étaient eux aussi remplis de morts. La trouée continuait dans celui qui était à ma gauche. Je m'y engageai. 2 ou 3 heures plus tard, peut-être davantage, je m'arrêtai pour m'asseoir sur l'étroit chemin de pierre qui sinuait au milieu de l'amoncellement macabre. J'estimais qu'il y avait des dizaines de milliers de corps dans ce seul tronçon de galerie. Le labyrinthe d'Hyperion devait en contenir des milliards, et les 9 planètes labyrinthiennes des milliards de milliards. J'aurais voulu savoir pourquoi on me montrait ce terrible Dachau à la puissance 1000. Non loin de l'endroit où je m'étais assis, le corps momifié d'un homme entourait encore celui d'une femme de son bras protecteur dont il ne restait que les os. Dans ses propres bras, la femme tenait un petit paquet prolongé par une touffe de cheveux courts et noirs. Je détournai les yeux pour pleurer. En tant qu'archéologue, j'avais eu l'occasion d'exhumer des victimes de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, d'incendies, d'inondations ou d'exécutions de masse. De tels tableaux de famille n'étaient pas une nouveauté pour moi. Ils faisaient partie intégrante de l'histoire, mais le spectacle que j'avais sous les yeux me semblait 1000 fois plus terrible. C'était peut-être dû au nombre évocateur d'Holocauste, ou à la lueur des cruciformes voleurs d'âmes qui tapissaient ces galeries comme des milliers de mauvaises plaisanteries blasphématoires, ou encore au lugubre gémissement du vent qui soufflait entre les interminables murs de pierre. Toute mon existence, toutes mes souffrances, mes petites victoires et mes innombrables défaites avaient convergé vers cet endroit. Au-delà de la foi, au-delà de mon intérêt pour ces choses, au-delà du simple défi miltonien, j'avais le sentiment que tous ces morts, tout en étant là depuis un demi-million d'années ou davantage, appartenaient au présent ou, pis encore, à l'avenir de l'humanité. Je me pris le visage à deux mains et me mis de nouveau à pleurer. Ce ne fut pas un frottement ni vraiment un bruit qui m'alerta, mais quelque chose de plus subtil, comme un déplacement d'air. Je relevai la tête, et soudain le Gritch était là, à moins de 2 mètres de moi. Non pas dans la trouée, mais parmi les morts, tel un sculpteur posant au milieu du carnage dont il était l'auteur. Je me mis debout. Je refusais d'être assis ou à genoux devant cette abomination. Le Gritch s'avança vers moi en glissant plutôt qu'en marchant, comme s'il était posé sur des rails sans friction. La lumière sanguine des cruciformes se répandait sur sa carapace de vif argent. Son rictus éternel, insupportable, était fait de stalactites et de stalagmites d'acier. Je ne ressentais aucune animosité envers cette créature. Rien d'autre que de la tristesse et une grande pitié, pas pour le Gritch lui-même, quelle que pût être son origine, mais pour toutes ces victimes qui, seules et sans la protection de la moindre foi, ont eu à affronter les pires terreurs nocturnes incarnées par ce monstre. Pour la première fois, je remarquai que de très près, à moins d'1 mètre, une odeur
émanait du Gritsch. Un mélange d'huile rance, de rouage surchauffé et de sang séché. Les flammes de ses yeux pulsaient sur le même rythme que les cruciformes. Je n'avais jamais cru, dans le passé, que cette créature fût d'essence surnaturelle ou qu'elle représentât une manifestation du bien ou du mal. Je la considérais seulement comme une aberration issue des régions insondables et apparemment incompréhensibles de l'univers. Une cruelle farce de l'évolution. Les pires cauchemars de Saint-Héliard concrétisés. Mais ce n'était pour moi guère plus qu'une chose qui obéissait à des principes naturels, aussi tordus qu'ils fussent, et qui devait nécessairement se soumettre aux lois de l'univers à un moment et en un lieu donné. Le Gritsch leva les bras vers moi, autour de moi. Les lames de ses quatre poignets étaient bien plus longues que mes mains. Celles de sa poitrine étaient plus longues que mon avant-bras. Je levai la tête pour le regarder dans les yeux, tandis qu'une paire de ses bras d'acier hérissés de lames de rasoir m'entourait les épaules et que l'autre paire m'attirait lentement contre lui, rétrécissant l'espace qui nous séparait encore. Les lames de ses doigts se déployèrent. Je sentis mes jambes vaciller, mais je ne reculai pas tandis que les scalpels pénétraient dans ma poitrine comme des flammes froides, avec la précision d'un laser chirurgical en train de fendre un nerf dans le sens de la longueur. Le Gritsch fit alors un pas en arrière. Il tenait quelque chose de rouge qui était imbibé de mon sang. Je chancelai. Je m'attendais presque à voir mon propre cœur dans les mains de ce monstre. Ironie finale du mort qui cligne des paupières de surprise en regardant son cœur battre quelques secondes, jusqu'à ce que le sang achève de quitter son cerveau incrédule. Mais ce n'était pas mon cœur que le Gritsch brandissait. C'était le cruciforme que je portais dans ma poitrine. Mon cruciforme. Le parasite dépositaire de mon ADN devenu lent à mourir. Je vacillais de nouveau comme si j'allais tomber. Je portais la main à ma poitrine. Mes doigts s'engluèrent de sang, mais il ne s'agissait pas du flot artériel que la chirurgie sommaire dont je venais d'être l'objet aurait dû provoquer. La blessure était en train de se cicatriser à vue d'œil. Je savais que le cruciforme avait envahi tout mon corps d'un réseau de filaments et de tubérosités. Je savais qu'aucun laser chirurgical n'avait été capable de séparer ces tentacules mortels du corps du père Hoyt, ni du mien, naturellement. Mais je me sentais libéré, guéri, débarrassé des fibres qui se flétrissaient et fondaient dans tous mes tissus endoloris. Je portais toujours le cruciforme de Hoyt, mais la sensation était différente. À ma mort, Lénard Hoyt se dresserait à partir de mes chairs remodelées, et je mourrais. Fini les lamentables reproductions du père Duré, un peu plus terne et anémiée avec chaque nouvelle génération artificielle. Le Gritsch m'avait accordé la mort sans me tuer. La créature jeta le cruciforme refroidi au milieu des morts et me prit le bras à hauteur du biceps, coupant sans effort trois épaisseurs de vêtements et faisant jaillir le sang au contact de ses terribles scalpels. Elle m'entraîna ainsi à travers les corps entassés, vers l'une des parois de la galerie. Je faisais tous les efforts possibles pour ne pas marcher sur les morts. Mais je craignais tellement de me faire sectionner le bras que je ne réussissais pas toujours à mettre les pieds où je voulais. Chaque mort touchée tombait aussitôt en poussière. À un moment, je dus marcher en plein sur la poitrine de l'un d'eux, qui s'affaissa aussitôt et garda mon empreinte. Nous arrivâmes devant la paroi, à un endroit où n'était collé aucun cruciforme. Je compris soudain qu'il s'agissait d'un passage de type énergétique. Il n'avait ni la taille ni la forme d'une porte d'istrance habituelle, mais il émettait le même bourdonnement d'énergie opaque. Quoi qu'il en soit,
J'étais soulagé de pouvoir enfin sortir de ce labyrinthe de mort. Le Gritch me poussa en avant. Gravité zéro. Un dédale de cloisons déchiquetées, des enchevêtrements de câbles flottant comme les entrailles à nu de quelque gigantesque créature, des voyants rouges en train de clignoter. L'espace d'un instant, je crus qu'il y avait des cruciformes ici aussi, mais je me rendis vite compte qu'il s'agissait de signaux d'alarme à bord d'un vaisseau spatial en train de mourir. Je trébuchais, ballotté dans un environnement zéro-g qui ne m'était pas familier, environné de nouveaux morts qui tournoyaient de tous les côtés. Ce n'étaient plus des momies desséchées, mais des cadavres récents, fraîchement tués, la bouche béante, les yeux distendus, les poumons éclatés, suivis de traînées de viscères et de sang, simulant grotesquement les mouvements de la vie dans leur lente réaction au courant d'air et au soubresaut du vaisseau déchiqueté de la Force. Car il s'agissait bien d'un vaisseau de la Force, j'en étais certain. Les cadavres autour de moi portaient tous l'uniforme de l'hégémonie. Sur les cloisons et les portes ovales défoncées, les inscriptions étaient faites dans le jargon militaire de la Force, ainsi que les instructions sur les portes des casiers inutilisés qui contenaient les équipements de secours, les tenues spatiales et les bulles de survie gonflables. Ce qui avait détruit ce vaisseau l'avait fait avec la soudaineté foudroyante d'une calamité qui s'abat sans prévenir dans la nuit. Le Gritch apparut devant moi. Le Gritch dans l'espace. Libéré d'Hyperion et des liens des marées du temps. Beaucoup de vaisseaux de la Force étaient munis de portes distrance. Il y en avait une à moins de 5 mètres de moi dans la coursive où je me trouvais. Un cadavre tournoyait devant elle. Le jeune soldat tendait la main en direction du champ opaque, comme pour voir quelle était la température dans le monde situé de l'autre côté. L'air sifflait en s'échappant de ce tronçon avec un son aigu. « Va-t'en » exhortais-je mentalement le mort, mais la différence de pression le repoussait de mon côté. Le bras étonnamment intact malgré l'aspect de son visage, qui ressemblait à un modèle écorché d'anatomiste. Je me tournai vers le Gritch. Le mouvement par réaction me fit accomplir un demi-tour dans l'autre direction. Le Gritch me souleva, les lames de ses doigts me déchirant les chairs, et me projeta en direction de la porte distrante. Je n'aurais pas pu changer de trajectoire même si je l'avais voulu. Dans les secondes qui précédèrent mon passage à travers le cadre d'énergie bourdonnante, j'imaginais le vide de l'autre côté, une chute vertigineuse, une décompression explosive ou plus terrible encore, le retour au labyrinthe. Au lieu de tout cela, je tombais de 50 centimètres sur un sol de marbre, ici même, à moins de 200 mètres de l'endroit où nous sommes. Dans les appartements privés du pape Urbain XVI, qui, par une extraordinaire coïncidence, est mort à peine 3 heures avant mon arrivée par son terminal distance privé. Au Nouveau Vatican, on l'appelle la porte du pape. Je ressentais la douleur torture que je ressens toujours lorsque je m'éloigne de la source du cruciforme. Mais la douleur est devenue une vieille alliée. Et elle n'a plus d'emprise sur moi. J'ai retrouvé Édouard. Il a eu la bonté de m'écouter durant des heures. Jamais aucun jésuite n'eut une telle histoire à confesser. Il a eu la bonté encore plus grande de me croire. Vous en savez maintenant autant que lui. L'orage avait cessé. Nous étions tous les trois assis à la lueur des cierges sous la coupole de Saint-Pierre, et nous nous taisions. Le Gritch a donc accès au Retz, déclarai-je enfin. Oui, répondit Duré sans me regarder. Il a dû utiliser un vaisseau dans l'espace d'Hyperion. C'est ce qui paraît le plus probable. Nous pourrions essayer de retourner là-bas, dans l'espace d'Hyperion, en passant par la porte du pape, peut-être.
Monseigneur Édouard haussa un sourcil.
« C'est réellement ce que vous souhaitez faire, H. Severne ?»
Je mordis la jointure de mon index. Je l'ai envisagé.
« Pourquoi ?» me demanda le prélat d'une voix douce. « Votre homologue, la personnalité si bride que Brown Lamia portait durant le pèlerinage, n'a trouvé là-bas que la mort ?»
Je secouai la tête comme pour éclaircir mes pensées emmêlées. « Je fais partie de tout cela. J'ignore simplement quel rôle je joue exactement et où je dois le jouer. » Le père Duret eut un rire sans humour.
Nous avons tous eu ce genre d'impression. C'est comme si nous faisions partie d'un traité sur la prédestination écrit par un mauvais auteur de théâtre. Qu'est-il advenu du libre arbitre ?
Le prélat jeta un coup d'œil acéré à son ami.
Paul, tous les pèlerins, et toi le premier, ont été confrontés à des choix qu'ils ont dû faire avec leur libre arbitre. Des forces qui nous dépassent organisent peut-être le cours global des événements, mais les humains sont encore en mesure de déterminer leur propre sort.
Tu as peut-être raison, Édouard, soupira Duret. Je ne sais plus. Je me sens si las.
Si le récit d'Humont est véridique, murmurai-je, et si ce tiers de divinité d'origine humaine a vraiment pris la fuite dans le temps pour se réfugier à notre époque, où pensez-vous qu'elle se cache et qui est-elle? Le Retz compte plus de 100 milliards d'habitants humains. Le père Duret eut un sourire bienveillant, sans animosité ni ironie.
Vous est-il venu à l'esprit qu'il pourrait s'agir de vous-même? H. Severne.
La question me fit l'effet d'une gifle.
C'est impossible, protestai-je. Je ne suis même pas tout à fait humain. Ma conscience flotte quelque part dans la matrice du technocentre. Mon corps a été reconstitué à partir des restes de l'ADN de John Keats et biofabriqué comme celui d'un androïde. Mes souvenirs ont été implantés en moi. La fin de ma vie, ma guérison de la phtisie qui me rongeait, a été entièrement simulé sur une planète totalement aménagée dans ce but.
Le père Duret n'avait pas cessé de sourire.
Et alors, en quoi tout cela vous empêche-t-il d'être l'entité en question ?
Je n'ai pas l'impression de faire partie d'une trinité divine, répliquai-je sèchement. Je ne me souviens de rien, je ne comprends rien, je ne sais même pas ce que je dois faire.
Monseigneur Édouard me toucha le poignet.
« Sommes-nous si sûrs que le Christ savait ce qu'il devait faire ?»«
Il savait ce qu'il y avait à faire, mais ce n'est pas forcément la même chose. »
Je me frottais les paupières. « J'ignore ce qu'il y a à faire. »«
Ce que Paul a voulu dire tout à l'heure, je crois, » murmura le prélat d'une voix très calme, « c'est que si la créature spirituelle en question se cache bien ici, à notre époque, elle n'est pas nécessairement au courant de sa propre identité.
C'est insensé, protestai-je.
Duret hocha lentement la tête.
Une grande partie des événements qui se sont produits sur Hyperion et autour de cette planète nous ont effectivement semblé insensés, et cela ne fait que s'accroître.
Je dévisageais le jésuite.
Vous feriez un bon candidat, vous aussi. Vous avez passé toute votre existence à prier, à étudier la théologie et à honorer la science en tant qu'archéologue. De plus, vous avez déjà été crucifié.
Le sourire de Duret avait subitement disparu.
Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes en train de dire ? Nous sommes en train de blasphémer. Je ne suis pas candidat à la divinité, Severne. J'ai trahi mon Église et la science. J'ai trahi mes amis pèlerins en les quittant. Le Christ a peut-être perdu la foi durant quelques secondes, mais il ne l'a pas échangée sur la place du marché contre quelques colifichets de curiosité égoïste.
Assez !
Ordonna Monseigneur Édouard.
Si l'identité de cette entité fabriquée venue du futur constitue bien un mystère, songez au nombre de candidats qui s'alignent, rien que dans votre petite troupe de la Passion, H. Severne. Il y aurait en premier lieu la présidente Gladstone, qui porte tout le poids de l'hégémonie sur ses épaules, et aussi les autres pèlerins, Achsilénus, par exemple, torturé dans l'arbre du Gritsch pour sa poésie. Achlamia, qui a tant risqué et perdu par amour. Achweintraub, qui a enduré le dilemme d'Abraham. Sa fille même, qui a retrouvé l'innocence de l'enfance. Le consul qui a...
Le consul ressemble plus à Judas qu'à Jésus-Christ, déclarai-je. Il a trahi à la fois l'hégémonie et les extros, qui croyaient qu'il était dans leur camp.
D'après ce que me dit Paul, fit le prélat, le consul est toujours resté fidèle à ses convictions, fidèle à la mémoire de sa grand-mère Syrie. Sans compter, ajouta-t-il en souriant, qu'il y a 100 millions d'autres acteurs dans la pièce. Dieu n'a jamais choisi Hérode, ni Ponce Pilate, ni Auguste comme instrument privilégié. Il a choisi l'humble fils d'un obscur charpentier, dans l'un des secteurs les moins importants de l'Empire romain.
Très bien, déclarai-je en me levant pour faire les 100 pas devant la mosaïque lumineuse qui ornait le pied de l'autel. Que faisons-nous maintenant? Père Duré, il faudrait que vous veniez avec moi chez Gladstone. Elle est au courant de votre pèlerinage. Votre récit pourrait contribuer à éviter une partie du bain de sang qui semble imminent.
Duré se leva aussi. Il croisa les bras et regarda vers le haut, en direction de la coupole, comme si l'obscurité des sommets pouvait receler des instructions pour lui.
« J'y avais pensé, dit-il, mais j'ai quelque chose de plus urgent à faire. Il faut que je me rende sur le bosquet de Dieu pour avoir un entretien avec l'équivalent du pape là-bas, la voix authentique de l'arbre-monde. »
Je cessai brusquement de faire les 100 pas.
« Le bosquet de Dieu? Quel rapport avec tout le reste ?»«
J'ai l'impression que les Templiers détiennent un élément crucial de ce pénible rébus. Vous dites que Etmastine est mort. Peut-être la voix authentique pourra-t-elle nous expliquer ce qui était prévu pour le pèlerinage. Le récit manquant de Mastine, en quelque sorte. » C'est le seul, après tout, qui n'ait pas pu raconter les circonstances qui l'ont amené sur Hyperion.
Je repris mes allées et venues plus rapidement, essayant de réprimer ma fureur grandissante.
« Bon Dieu, Duré, nous n'avons pas le temps de satisfaire ces curiosités inutiles. Il reste à peine, je consultai mon implant, 1 heure et demie avant l'arrivée de la vague d'invasion extra dans le système du bosquet de Dieu. Ce doit être la panique là-bas. »
« C'est possible, » répliqua le jésuite, « mais j'irai d'abord là-bas. Je verrai Gladstone ensuite. Il se peut qu'elle m'autorise à retourner sur Hyperion. »
Je répondis par un grognement. Je doutais fort que la présidente laisse un aussi précieux informateur regagner une zone de danger.
« Allons-y tout de suite dans ce cas, »
soupirai-je en me tournant pour chercher la sortie. « Une seconde, » fit Duré. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez capable, à certains moments, de rêver des pèlerins même éveillés, dans une sorte d'état de transe, c'est bien cela.
C'est à peu près ça, oui.
Eh bien, H. Severne, j'aimerais que vous le fassiez maintenant.
Je lui jetai un regard stupéfait.
Ici même?
Tout de suite?
Il m'indiqua son fauteuil.
S'il vous plaît.
J'aimerais connaître le sort de mes amis. Et ces informations pourront nous être très utiles lorsque nous serons face à face avec la voix authentique, puis avec H. Gladstone.
Je secouai la tête, mais j'acceptai le siège qu'il m'offrait.
« Je ne sais pas si cela marchera, » lui dis-je.
« Nous ne perdons rien à essayer, »
murmura le père Duré. Hochant lentement la tête, je fermai les yeux et me laissai aller en arrière dans le fauteuil inconfortable. J'avais trop conscience des regards des 2 hommes posés sur moi, de la faible odeur d'encens, du bruit de la pluie et de l'espace résonnant de la basilique qui nous entourait. J'étais certain que cela ne marcherait pas. L'environnement de mes rêves ne m'était pas assez proche pour que je puisse le faire apparaître rien qu'en fermant les paupières. La sensation d'être regardé s'estompa. Les odeurs s'affaiblirent et l'espace se dilata tandis que je retournais sur Hyperion.